découverte du Congo dans ses différentes facettes, c'est possible. Des histoires inédites d'expériences des Congolais, mais aussi de tous ceux qui, venant d'ailleurs, ont choisi le Congo comme seconde patrie. Un focus sur des métiers anciens et nouveaux déclinés à l'infini, fruit de la débrouille qui tient tout le secteur informel. Oui, c'est Zigzag. Rejoignez sans plus tarder l'équipe de Zigzag sur Radio Okapi, chaque samedi à partir de 15h, heure de Kinshasa. Et parcourons ensemble les coins et recoins du Congo profond. Zigzag, c'est Radio Okapi en balade.
Que faire pour contribuer à la lutte contre le changement climatique? Vous savez, chaque individu peut poser des gestes simples pour diminuer les émissions des gaz à effet de serre dans son environnement immédiat. D'après les experts, la pollution atmosphérique que nous connaissons est en grande partie d'origine humaine. Chacun pollue l'environnement, mais à des degrés différents. Quels sont les gestes à poser au quotidien pour lutter de manière efficace contre le changement climatique? Florie Botamba, chef des programmes forêts, Focal Red, et notre invité, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous savons qu'il s'est tenu dernièrement en France la COP 21. Alors, qu'est-ce qui a été dit? Quelles sont les résolutions prises par rapport au changement climatique?
Disons que la COP telle qu'elle a été conçue, il fallait que le parti, donc les différents pays qui ont souscrit à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, il fallait que ces pays-là puissent se mettre d'accord sur comment tacler ces problèmes dans les prochaines années. Mmh. Et donc arriver à avoir un accord qui serait à la fois contraignant et aussi qui permettrait à ce que les points les plus saillants soient taclés, soient décidés. Les points les plus saillants, l'un des points était comment maintenir l'augmentation de la température d'une manière globale à moins de 2 degrés Celsius. Mm. Et donc au départ, lorsque les différents pays avaient souscrit dans leur CPDN, qui est la contribution pays déterminée au niveau national, qui permettait à chaque pays de pouvoir proposer les secteurs où ils allaient focaliser pour diminuer les émissions. Dans le cas de la RDC, ce sont le secteur forestier, agricole et le secteur de l'énergie qui étaient taclés. Le pays a souscrit à 17% de réduction d'émissions. Et donc, lorsqu'on mettait tout cela ensemble par rapport aux différents pays, ça donnait une température de presque de 3 degrés. Donc, qui n'était pas celle désirée par les différents pays. Donc, il fallait que, lors de ces négociations, que les pays s'accordent à aller plus loin et à décider qu'on maintiendrait la température en dessous de 2 degrés.
Donc, vous dites que la RDC s'est engagée à réduire de 17%.
Oui, dans les différents, dans les trois secteurs, le secteur énergie, forêt et agriculture. Donc ça, c'était, on n'a pas touché les autres secteurs. Et il y avait des incompréhensions par rapport à ces chiffres. Souvent, les gens se posaient la question pourquoi la RDC a demandé 22 milliards pour investir dans cet effort-là pour un pays comme la RDC. Mais la RDC n'a pas touché tous les secteurs. On a d'abord commencé par trois secteurs précis, et puis après, au fur et à mesure où les études vont continuer, on va...
On a touché trois secteurs, vous pouvez les rappeler, vous avez dit les domaines...
Le secteur de la forêt, le secteur de l'agriculture, le secteur de l'énergie.
Alors, qu'est-ce que chacun de nous peut faire au quotidien, au niveau du pays, maintenant, pour contribuer à la lutte contre les changements climatiques?
Comme vous savez, la constitution de la République démocratique du Congo nous dit que nous avons, chaque citoyen, droit à un environnement sain, propice à son épanouissement. Et donc, ça veut dire que tous, nous sommes, autant que nous avons droit à cet environnement sain, et autant aussi nous avons le devoir de nous assurer que cet environnement-là est réel et que nous y participions, chacun selon ses capacités, son niveau et aussi son niveau social, tant que son niveau en tant que personne humaine. Nous avons l'obligation de pouvoir faire les efforts nécessaires, notamment par de gestes simples. je vous donne un cas d'espèce.
Lequel?
Si aujourd'hui, vous décidez de construire votre maison, et donc il faudrait que cette maison-là soit un amalgame entre le béton et la verdure. C'est-à-dire, vous devrez vous assurer que votre architecte combine le béton et la verdure. Donc, vous ne devez pas avoir une maison où il n'y a que du béton, donc des briques, et il n'y a nulle part de portion de la verdure, dans les arbres fruitiers ou les arbres qu'on utilise comme de fleurs en ce qui concerne l'horticulture. Mm-hmm. Et donc, il faut combiner les deux. Et en même temps aussi, il faut aller...
Donc, vous parlez de la... Lorsqu'on construit, il faut un espace où il y aura la pelouse.
Il faut s'assurer...
Les arbres, hein.
Il faut s'assurer des fleurs et autres. Donc, il faut s'assurer que dans votre maison, vous incorporez cela. Mais en même temps aussi, lorsque la Compagnie Nationale d'Électricité fournit l'électricité d'une manière continue, donc vous n'aurez pas de problème d'électricité. Mais par contre, lorsqu'on a des carences, comme parfois on rencontre à Kinshasa, donc il serait important que vous pensiez aux énergies renouvelables pour alimenter votre maison. Donc, notamment le solaire ou d'autres méthodes que les architectes et les ingénieurs en bâtiment ont pleine connaissance. Ils pourraient vous aider à faire une maison hybride qui permettra à ce que vous combiniez l'énergie électrique en provenance dans les cas précis de nos différents barrages et aussi le solaire par exemple, et aussi pour certains coins, si vous êtes dans la campagne, comment recycler vos déchets ménagers pour produire de l'énergie qui vous permettrait de ne plus avoir recours au groupe électrogène par exemple. Si vous prenez les cas de Kinshasa et de toutes les grandes maisons, buildings et autres,
on a toujours des groupes électrogènes.
Et les groupes électrogènes émettent suffisamment des gaz à effet de serre. Donc, il faudrait commencer à penser dans la construction. Nous voyons des nouveaux quartiers tout autour de Kinshasa qui sont construits, mais rarement vous voyez des quartiers qui incorporent la partie verte de la construction dans leur architecture.
Mais déjà, tous les espaces verts qu'il y avait dans la ville sont occupés. Donc, les gens ne tiennent pas tellement compte. Hein,
voilà. On prenait les cas au moment où si vous avez l'argent pour construire, mais justement, si vous n'avez pas l'argent, comme autrefois, on avait des espaces bien définis et on commence à réhabiliter certains de ces espaces. Mais pour les coins où il n'y en aurait pas, il faudrait que chaque personne ait la responsabilité, ou chaque ménage ou chaque parcelle pourrait planter un arbre, à la fois soit de l'arbre fruitier. Dans les cas précis, souvent nous voyons des manguiers dans des parcelles qui ont un double usage, qui vous donnent à un moment donné de l'ombre, mais en son temps, il donne son fruit en sa saison. Et qui, vous savez bien qu'il nous est recommandé d'avoir au moins 5 fruits, manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Donc, ça vous donne l'opportunité quand même d'avoir de quoi maintenir votre équilibre nutritionnel. Mmh. Aussi, le déchet, la gestion des déchets ménagers. Et nous avons aujourd'hui de déchets solides, liquides, que nous avons, et puis les déchets non biodégradables. Donc, il faudrait déjà commencer à apprendre ce geste dans nos maisons, de pouvoir déjà trier les déchets. De façon
avoir
à ce que...
Avoir trois poubelles, si je peux le dire ainsi.
Pourquoi pas, ça permettrait à ce que nous apprenions à mettre d'un côté les déchets biodégradables, c'est-à-dire que la nature transforme librement selon les effets que la nature a mis à la disposition de tous les éléments, et donc et les mettre de l'autre côté les déchets non biodégradables, notamment tout ce qui est plastique et autres. Donc à ce moment-là, lorsque on va dans un centre de collection de ces déchets, comme on a maintenant dans les différents coins. Et d'ailleurs, aussi, j'encouragerais la ville à pouvoir déjà aller dans ce sens. Parce que vous verrez trois ou quatre bennes qui sont là installées. Et donc, il faudrait qu'on puisse déjà mettre cela, encourager les gens à jeter les verres d'un côté, parce que les verts, vous allez à Boukine, il va recycler cela.
Oui.
Et par contre, le plastique, vous devez aussi trouver un moyen pour recycler le plastique. Et il y a aujourd'hui de moyens de recycler les plastiques dans différents pays, dans différentes conférences où nous participons. Les gens viennent avec des nouvelles méthodologies pour pouvoir recycler le plastique. Et donc, les déchets qui sont totalement les déchets ménagers, les restes de la nourriture, on les jette dans un coin bien précis, puisqu'on peut le recycler et l'utiliser dans nos champs et autres potagers et tout ça. Mmh. Ça, on peut le faire. Les déchets solides d'origine de la construction, il doit avoir aussi un moyen pour récupérer cela. Je crois que lorsque nous regardons dans nos avenues, il y a souvent de points... qu'on appelle des points qui sont souvent où dans nos avenues il y a des nids de poules qui sont là.
Oui.
Et donc on peut utiliser cela par exemple
pour
rembler tout. Oui. Ça, mais en même temps aussi on peut recycler cela. Je suis allé en Corée du Sud à Séoul, j'ai trouvé une entreprise qui recyclait le déchet solide d'origine industrielle, c'est-à-dire d'origine de la construction. Et on a recyclé ça en petits sédiments qui leur permettaient de faire le pavé qui retourne dans le cycle de travail. Lorsqu'on doit faire les places publiques, on doit aménager les allées, tout ça, on utilise ces pavés-là. Donc, au lieu que ça soit jeté quelque part, on peut les recycler et revenir dans la vie courante.
Et tout cela permet de lutter contre le changement climatique.
Exactement.
Voilà, deux auditeurs en ligne, je reviens à vous tout à l'heure. Jules Nyemboué nous appelle de Lumbashi et Jean-Vincent de Mondo de Kinshasa.
Chalizé Odin.
Bien. Jules Nyemboué, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, aujourd'hui. Bonjour à l'invité.
Quelle est votre question?
Oui, je voulais demander à l'invité, parce que nous avions appris toujours par la voix des ondes que les pays qui polluent beaucoup à l'environnement sont peut-être l'Inde et d'autres pays qui ont un grand nombre de véhicules qui donne beaucoup de gaz. Mais ici, chez nous, quand ils parlent de groupes électrogènes, moi, je vois que ces gaz émis par des groupes électrogènes et d'autres véhicules n'auront pas assez d'effet. Parce que l'Inde, qui a beaucoup de gaz, qui a beaucoup pollué l'environnement, jusque-là, ils vivent normalement. Et puis, s'il peut aussi nous expliquer ces phénomènes-là des reboisements et déboisements. Jusque-là, on ne comprend pas ce qui se passe. Quand on reboise, qu'est-ce qu'il y a sur l'environnement? Et quand on déboise, qu'est-ce qu'il y a aussi comme effet sur l'environnement? C'est tout ce que j'allais demander à notre invité.
Bien. Que faire pour contribuer à la lutte contre le changement climatique? Chacun de nous peut poser des gestes au quotidien qui vont aider à lutter contre le changement climatique. Jean-Vincent Desmondo de Kinshasa, bonjour.
Bonjour, Judith. Bonjour à l'auditeur et bonjour à tous les à l'invité, à tous les auditeurs de la radio de la France.
Quelle est votre question?
Merci, Judith. Avant de commencer, je voudrais me présenter. Je suis coordonnateur d'un projet. Nous sommes dans les Sankourou, plus précisément à l'OMEL. Dans nos domaines d'intervention, nous avons aussi la question de la conservation de la nature, donc le changement climatique. Nous y travaillons avec les moyens de bord. Notre bailleur ne finance pas ce domaine-là, mais nous savons que cette question devient mondiale et nous y travaillons sérieusement. Donc notre inquiétude est de savoir, et c'est la question aussi que je pose à l'invité, où va tout cet argent, parce qu'il a cité là une promesse, je ne sais pas, de 20 millions. Depuis longtemps, on attend, il y a des financements qui viennent.
Oui, Jean-Vincent.
Oui,
Jean-Vincent, ça, c'est pas notre thème du jour. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus, on parle des gestes que nous pouvons poser au quotidien pour lutter contre le changement climatique.
Oui, c'est pourquoi je voulais citer quelques gestes. Chez nous, par exemple, nous travaillons avec les paysans. Nous leur demandons d'abandonner petit à petit le système de brûlure, des champs de surbrûlure, pour adopter maintenant ce que nous appelons l'agroforesterie. Alors notre problème est que est-ce que le gouvernement ne peut pas élargir cette lutte à travers toute la République, parce qu'il y a des coins où les gens ne savent pas. comment mettre en pratique ce que l'invité est en train de noter là comme pratique, comme comportement que nous devons adopter. C'est ça notre inquiétude. Est-ce qu'il y a une politique qui fait que tout le monde, tous les Congolais puissent contribuer à la lutte contre ce changement climatique dont nous déplorons aujourd'hui?
D'accord. Merci Jean-Vincent de Mondo. Flori Botamba.
Oui, merci à M. Gilles et à M. Jean-Vincent pour leurs différentes préoccupations. Je pense qu'on va les rencontrer. Lorsque M. Gilles parle de pays pollueurs, il a cité notamment l'Inde, qui fait partie des 10 pays pollueurs et qui n'est pas le premier. Le premier, c'est les États-Unis, suivi la Chine, de l'Union européenne en tant qu'entité et autres. Donc, nous parlons de la RDC. Nous ne devons pas nous voiler la face. Nous ne sommes pas en train de parler de ce que les Indiens et les autres feraient.
Mais lui, il estime que le fait d'utiliser les groupes électrogènes dans nos ménages, ça n'a pas un grand impact sur l'environnement.
J'arrive, mais lorsque le pays n'est pas alimenter suffisamment l'énergie électrique, quelle est la première solution? C'est le gaz, c'est l'utilisation de groupes électrogènes. Et vous serez étonné par groupe, la quantité de CO2 qui sont rejetés dans la nature, et spécialement lorsque vous êtes à côté. Donc les précautions ne sont même pas prises pour éviter les conséquences liées à l'émanation de ces gaz pour la population, pour les personnes qui vivent aux environs de ces groupes. Et ça, c'est déjà un problème très sérieux. Mettez-vous juste une fois à côté, ce que je ne vous souhaite pas de faire, à côté d'une voiture qui n'est pas bien prise en charge par son propriétaire, et vous voyez l'émanation de cette gaz-là. Quand vous mettez derrière, vous risquez la mort d'une manière ou d'une autre. Et quand nous regardons
la quantité de fumée,
justement,
hein,
donc quand
une fumée noire.
Voilà, quand vous vous mettez justement aussi, vous regardez la quantité, parce que il est à Lubumbashi, mais quand nous voyons nos 207 des différentes vieux véhicules qui circulent sur la ville de Kinshasa, et aujourd'hui avec la possibilité d'avoir son petit à quartier dans les petites voitures là. Vous vous rendrez compte que nous commençons à entrer progressivement vers le pays qui pollue grâce à l'utilisation de véhicules. Donc il y a plusieurs catégories, et lorsqu'il me dit que effectivement c'est quoi les reboisements et les boisements, justement les reboisements, c'est une des solutions qui permet d'augmenter la superficie forestière. Là, on a coupé. Les reboisements, c'est lorsque vous avez coupé les arbres et vous voulez réintroduire les arbres dans cette zone que vous avez coupée. Ça veut dire que vous faites un reboisement parce qu'il y avait un peuplement d'arbres avant et maintenant, vous voulez rétablir ce peuplement-là. Donc là, c'est les reboisements. Les boisements, c'est lorsqu'il n'y en avait pas, et que vous introduisez maintenant les arbres à cet endroit-là. Donc ça, c'est les boisements. Et les reboisements, les déboisements, c'est lorsque il y avait de bois, des arbres, vous coupez et vous libérez les carbones qui étaient séquestrés dans ces arbres, et qu'il y a une réaction avec l'oxygène de l'air, donc ça forme maintenant des CO2. Et ça, vous créez justement, vous alimentez la nature avec les gaz à effet de serre. Par contre, lorsque vous faites un boisement et un reboisement, vous augmentez la capacité de séquestrer les carbones. Donc, lorsqu'il y a des CO2 dans l'air, et avec les nouveaux peuplements, ils vont commencer à séquestrer à la fois le CO2 pour prendre avec la photosynthèse, garder les carbones dans l'arbre et libérer l'oxygène dont nous avons besoin pour la respiration. Et donc, ça c'est un point. En ce qui concerne M. Jean-Vincent de Kin, qui a un travail, qui fait un travail au niveau de l'Omela. Et effectivement, en ce qui concerne la RDC, parmi le moteur de la déforestation, l'un des premiers moteurs est l'agriculture itinérante sur Brili, c'est-à-dire la population en quête d'une terre fertile irait facilement dans la forêt et brûlerait une partie de cette forêt pour faire son champ. Et donc, on détruirait la forêt, au fait. Et aller vers l'agriculture durable, c'est-à-dire maximiser l'espace. On a l'espace, on réduit l'espace, mais on utilise On utilise la méthode d'agroforesterie où on fait ce que nous
appelons. Mais jusqu'à ces jours, il y a des agriculteurs qui continuent à recourir au feu de brousse.
Bien sûr, vous n'allez quand même pas gérer tout le monde de la même façon. Donc, on s'est rendu compte qu'il y a un problème. On s'est rendu compte, mais maintenant, il faut introduire l'agriculture durable. L'agriculture durable demande des formations. Il faut aller dans ces différentes zones, former les communautés et les aider à avoir des semences améliorées. Alors, vous connaissez, par exemple, quand nous prenons les maniocs, il y a des boutures améliorées qui vous permettent d'avoir des tubercules d'une certaine taille, beaucoup plus importante dans un espace beaucoup plus réduit. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir la quantité que tu aimerais avoir dans un espace beaucoup plus grand. Tu peux réduire ça en ayant des boutures saines, des boutures améliorées, et cette espèce-là te donne suffisamment dans un espace beaucoup plus réduit. Donc, ça, ce sont des méthodes qui sont faites, mais en même temps aussi, lorsque vous faites cela, il faut faciliter l'accès vers les marchés. Il ne suffit pas simplement de diminuer la pression sur la forêt, mais il faut également faciliter l'accès sur les marchés de manière à ce que les communautés qui produisent aillent vers un marché beaucoup plus important et puissent gagner suffisamment pour ne pas avoir toujours besoin de recourir à plus d'espace parce qu'ils n'arrivent pas à atteindre les objectifs qui se sont assignés.
Que faire pour contribuer à la lutte contre le changement climatique? Quels sont les gestes que chacun de nous peut poser au quotidien pour lutter contre le changement climatique? Kilma nous appelle des Bandes Nouvelles et Joseph Chitoko des Kikwita.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance, reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Que faire pour contribuer à la lutte contre le changement climatique? Flori Botamba, chef des projets Forêt et Point Focal RED, est notre invité aujourd'hui. Kilma, vous êtes à Bandundouville. Bonjour et quelle est votre question?
Bonjour Radio Capi, je suis à Bandundouville, comme vous l'avez dit. J'ai une petite préoccupation, je ne sais pas. Alors, mais je voulais parler surtout sur le domaine de la pêche. Parce qu'il y a au mois de mai, au début du mois de mai, mois de juin, je vois des gens en train de capturer des petits poissons. Je me demande, est-ce que ces frétés-là peuvent devenir des gros poissons ou c'est seulement comme ça leur vie c'est, en cette petite grandeur-là? Si les vitesses nous peuvent nous expliquer, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que souvent ça fait mal. Des poissons comme ça qui pouvaient grossir, mais les gens l'utilisent abusivement. Ça fait vraiment très mal. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que réellement il se limite à ces grandeurs-là ou ils peuvent aussi grossir? C'est la question que je voulais poser.
Merci Kilma. Joseph Chitoko de Kikwit, bonjour. Et quelle est votre question?
Bonjour aujourd'hui, bonjour tout le monde. Je suis entouré de voisins qui tout le temps brûlent des déchets de toutes sortes. J'ai tenté plusieurs fois de leur expliquer comment est-ce que ça pouvait nous amener des dangers, mais on se met toujours pas d'accord. On continue toujours à brûler. Que dois-je faire? La deuxième préoccupation, c'est de savoir est-ce que chacun peut, à son niveau, créer sa propre petite forêt et oui, quels sont les préalables?
Voilà, vous vous demandez si chacun peut créer une petite forêt.
Et quelles sont les conditions ou les préalables pour y arriver?
D'accord, merci. Flori Botamba.
Ok, en ce qui concerne la pêche, j'ai travaillé pendant quelques années dans ce secteur.
Est-ce qu'il y a un lien entre le fait d'attraper les frétins et les changements climatiques?
Bien sûr, parce qu'ils ont un environnement. Et la pêche est un point très très important. Parce que il y a les différentes techniques de pêche utilisées en RDC, qui sont des techniques traditionnelles, qui fallait les améliorer pour aller vers une pêche beaucoup plus responsable. Il y a premièrement une ancienne loi sur la pêche qui fait abstraction d'une pêche des alevins ou des juvéniles. Et donc, il faudrait pas que les pêcheurs capturent les alevins et les juvéniles. Il y a une taille de maille qui est définie. La maille de filet de pêche devait être égale ou supérieure à 3,5, si je ne m'abuse, centimètres. Donc, on ne peut pas avoir de filet en deçà de cela, si ce n'est que pour capturer des poissons d'aquarium. Et donc, pour les frétins, tel qu'il a dit, ce que nous appelons Dakala, ils ne grandissent pas. Les Dakala sont petits, ils sont comme ça, c'est leur taille, c'est comme ça. Mmh. Mais par contre, les tout petits poissons que les gens raffolent parce qu'on met trop de piments dans les libokés et tout petit machin là, ça c'est interdit, il est interdit de les capturer. Et il faut absolument utiliser les filets à maille qui sont acceptés par la loi. Il faut faire un travail sur la pêche responsable. Il y a un guide qui est mis en place au niveau international sur la pêche responsable qu'il faudrait vulgariser et permettre aux gens de pouvoir améliorer. Il y a des techniques de pêche qui sont destructives de la nature, c'est-à-dire au niveau des berges, les gens viennent et commencent à dégrader les berges pour pouvoir faire leur pêche. Il y a des gens qui utilisent les poisons pour pouvoir capturer les poissons. Donc, ce qui fait que les poissons est à la fois contaminé, y compris les personnes qui vont en consommer, parce que la quantité consommée par un individu n'est pas peut-être bien précise ou peut avoir beaucoup plus de poison là-dedans. Donc, il y a eu des cas de décès dans ces cas-là. Mmh. Donc, il faudrait faire attention. Il faudrait, au niveau de province, il y a des inspecteurs et qui sont du secteur de la pêche, du ministère de l'Agriculture et Pêche, et qui ont pour responsabilité cette thématique. Et il faudrait que les gens qui sont dans cette zone-là puissent les consulter et travailler avec
eux. Ils doivent changer leurs pratiques. Hein,
et ça quotidien. Demande énormément de vulgarisation de la loi et aussi s'assurer que les moustiquaires imprégnés ne sont pas utilisés pour la pêche, parce que dans plusieurs cas, les gens utilisent ces moustiquaires-là pour faire de la pêche.
D'accord. Donc, on va accueillir Jirès et Maka de Mandonville. Bonjour Jirès, quelle est votre question?
Bonjour Radio Kapi. Oui, j'appelle pour participer à l'émission en disant ceci, et que dans ce pays, il y a déjà des lois qui existent pour protéger l'environnement, mais le seul problème est que la vulgarisation n'existe pas. Alors, tous, que nous soyons population ou gouvernement, nous sommes tous concernés par les changements climatiques. Il y a aussi un problème au niveau de l'environnement, par exemple, quand je prends l'état d'espèce ici à Bandundu, quand vous allez dans la division provinciale ou la coordination provinciale de l'environnement pour chercher l'autorisation pour abattre un arbre, on se contente juste de vous demander à remplir un formulaire et vous payer le frais y afférent, et on vous demande pas de faire les reboisements. Moi, je crois que le ministère de l'Environnement a encore plus de choses à faire par rapport à la protection et à la conservation de la nature.
D'accord, merci. Flori Botamba, revenons d'abord à la question de Joseph de Kikuit.
Oui.
Ses voisins brûlent les déchets, il les a interdits, mais ils ne veulent pas comprendre.
Il a raison d'interdire qu'on brûle les déchets parce qu'il y a de matières toxiques. Les sachets et autres plastiques sont toxiques. Et
vous, même à Kinshasa, on les voit dans nos rues, les gens.
Donc, il est strictement interdit. On ne peut pas le faire. On ne peut pas se mettre à la place de connaisseurs pour faire un travail qu'on
ignore. Qu'est-ce qu'il faut faire alors?
Il faudrait justement, comme on l'avait dit au départ, pouvoir trier ces déchets et mettre ça quelque part et donner aux gens qui sont habilités à le faire pour pouvoir soit recycler, soit détruire ces déchets-là dans des endroits propices à cela.
Voilà.
En ce qui concerne sa petite forêt personnelle, oui, le code forestier vous permet de planter. Et donc, il faudrait que vous utilisiez votre code forestier, qui est la loi sur la gestion forestière promulguée en 2002, et qui permet à ce que nous ayons les voies et moyens pour pouvoir le faire. Donc, il peut le faire, cette forêt lui appartiendrait, et donc, ça permettrait d'augmenter la superficie forestière, d'avoir le petit geste dont nous faisions allusion. Lui, il pense à faire une forêt, donc il fait déjà davantage, et cette forêt-là aura à rendre des services environnementaux à l'espace et à sa zone, et surtout, il pourra l'utiliser pour des raisons économiques. Donc, rien ne lui empêche. Il y a, s'il a un espace bien défini, il pourrait le faire. Mais il devrait identifier les espèces à planter.
À planter.
Par contre, là, il faudrait aller vers un spécialiste pour l'aider à identifier les espèces qu'il devrait planter.
John Menadi nous appelle de Rutshuru, au Nord Kivu. Bonjour et quelle est votre question?
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour à l'invité.
Bonjour.
Je voudrais juste demander à l'invité de m'aider parce que j'ai un terrain qui est situé sur une pente. Maintenant, je voudrais reboiser des arbres sur cette terrain-là. Je voudrais demander donc à l'invité de m'aider avec des techniques parce que c'est un terrain qui sur lequel coule beaucoup d'érosion pendant la pluie. Je voudrais que l'invité puisse m'aider avec des techniques anti-érosives qui peuvent me permettre donc de planter des arbres en toute quiétude. Voilà tout ce que je dis. Ce que je dis, Daniel.
Bien, merci John. Docteur Fleury.
Je reviens sur l'ami de Cucut, M. Giresse, qui parlait de l'autorisation au niveau de l'environnement pour abattre les arbres. C'est vrai que lorsque vous plantez votre arbre, il n'est plus à vous pour l'abattre. Il faut demander une autorisation.
Il faut demander une autorisation.
Justement, parce que il est en train de rendre un service bien spécifique. Et donc, il y a de préalables. Et lorsqu'on vous accorde, il doit avoir une raison particulière d'abattre cet arbre-là.
Et si vous devez reboiser.
Normalement, lorsqu'on fait, par exemple, la coupe de façon plus autorisée, vous devez quand même remplacer. C'est quand même normal, non? Les services que votre travail vous a rendu, il est important de le faire. On parlait autrefois de l'exploitation industrielle, si vous vous rappellerez de ce que nous avons dit ces jours-là. Sur l'exploitation industrielle, on dit lorsqu'on retire un individu, il faut en replanter. Donc, mais pour replanter, reboiser, dans les cas précis, l'État a mis en place un service de reboisement d'horticulture qui a ça dans ses attributions pour le faire. Au niveau individuel, on peut le faire de façon individuelle parce que là, ce n'est pas un problème.
John veut, il a une maison sur une pente?
Oui, il a une maison, un terrain sur le pente. Oui. Je le conseillerais de voir d'abord un architecte. Qui lui est habilité à analyser le sol et voir qu'est-ce qu'il faut faire pour construire. S'il pense à construire dans les environs, il doit s'assurer qu'il voit l'architecte dans un premier temps, qui lui dirait comment le faire. Et dans un deuxième temps, pour planter, il y a les vétivers d'abord qui sont des herbes qui renforcent le sol. Et qui permettra, c'est qu'on diminue les risques d'érosion. Et beaucoup d'érosion a été gérée grâce à la mise en place de vétivers. Et il y a aussi des arbres qui sont des espèces qui sont appropriées pour pouvoir, qui renforcent le sol. Dans certains cas, par exemple, on mettrait des bambous, comme vous voyez. Il peut faire une plantation de bambous, mais dans d'autres cas, il doit regarder aussi les spécialistes dans le coin, au niveau des
cultures, qui vont
l'aider à identifier d'abord le sol, sa qualité, parce qu'on ne travaille pas comme ça, on doit analyser le sol. Chaque sol a ses propriétés et chaque espèce a besoin d'être là où elle devait être pour s'épanouir.
Donc, alors, nous retenons pour terminer, Fleury Boutamba, que si chacun de nous, à son niveau, pose des gestes qui protègent l'environnement, on arrivera à quel résultat?
Donc, si chacun de nous pose des gestes précis, je crois que ça réduirait la libération de gaz à effet de serre, et donc on devrait améliorer la qualité de vie de ceux qui sont là. Ce sont des réflexes, nous devons avoir ça comme des réflexes que nous avons, de laver nos mains avant de manger par exemple, de s'assurer que nous buvons une certaine quantité d'eau tous les jours parce que le corps en a besoin. On devrait avoir ce genre de réflexes pour améliorer la qualité et revenir, comme nous l'avons dit au départ, que chaque personne a droit à un environnement sain pour puisse à son épanouissement. Et ce n'est pas simplement un droit, mais c'est aussi un devoir de pouvoir s'assurer que cela soit réel dans nos vies de tous les jours.
Bien, merci Fleury Boutamba, chef de projet Forêt et Point Focal RED. Merci et à la prochaine.
C'est moi qui vous remercie. Au Capi.